Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Il y a quelques jours, enfin plutôt quelques semaines, un dimanche après-midi, alors que nous étions réunis, une question a été proposée à l'Église. Quelle est la différence entre les miracles, les prodiges et les signes de Dieu? Alors peut-être que vous avez une petite idée. Alors, on avait débattu un peu sur la question, et j'aimerais justement y revenir, parce que nous sommes des chrétiens bibliques de l'Évangile, et c'est vrai que la question du miraculeux, la question du surnaturel, est quelque chose de fréquent, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, particulièrement le Nouveau. Notamment à travers les ministères, l'apostolat naturellement de Paul, mais qui a commencé naturellement et qui explose, passez-moi l'expression, à travers eh bien ce que Jésus a accompli. Alors c'est intéressant de prendre en compte parce que on est dans une société aujourd'hui où soit tout est démystifié, on ne croit en rien. La raison prend le dessus, l'intelligence, et on se dit tout ça, ça n'existe pas. C'est dans l'esprit des gens. La démystification, sans être mystique. Et puis, également, ceux qui vont à l'excès. C'est-à-dire que ils voient Dieu partout. J'ai eu un appel téléphonique cette semaine. Quelqu'un me disait, téléphoné d'une autre région, qui me disait, mais j'ai vu le Seigneur. Et elle m'a donné les détails de ce qu'elle avait vu. Bon, je me suis dit, il y a quand même quelque chose. Quelque chose de particulier. Enfin, j'étais quand même assez dubitatif, je vous le dis. Mais j'étais respectueux et je l'ai écouté. Et alors, il y a ceux qui le voient partout, il y a ceux qui voient les miracles partout, il y a chaque pas, chaque élément, qui peut se présenter à eux. Voilà, c'est ça, c'est l'excès du miracle, ou alors c'est le miracle qui a disparu complètement. J'aimerais justement, pour étayer notre, et préciser peut-être notre réflexion aujourd'hui, lire tout simplement deux passages, dans deux, trois passages. Ça va être très simple, ça va être des interventions assez brèves. Dans Jean, chapitre 20, et verset 30, et 21, verset 25. Et on va prendre en considération à partir de cela, et dans un autre passage, on va nourrir un peu notre méditation ce matin. Alors, Évangile de Jean, chapitre 20, verset 30. Donc, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Je reprends la première proposition, la première phrase. Jésus a fait encore. En présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Et puis, toujours à la même page, Jean, chapitre 21, verset 25. C'est un peu la même chose, vous allez voir. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Alors, imaginez-vous que depuis 2000 ans, il y en a eu des écrits sur le christianisme, sur Jésus, sur sa vie, sur ses miracles. Alors, tant dans le positif, tant dans le négatif. Parce que le christianisme, et Jésus a souvent suscité la contradiction. Des gens pour, des gens contre, et ceci et cela, et voilà, c'est ainsi. Et puis, une deuxième lecture, qui là bien nous montre que ce que Jésus a fait, il l'a transmis aux autres. C'est-à-dire, c'est devenu finalement le patrimoine ou les capacités ou les facultés de l'Église hier et d'aujourd'hui. Et pour ce faire, eh bien, Actes chapitre 2, et au verset 22, chapitre 2, verset 22, et j'ai sous les yeux cette interpellation de Pierre, juste après la Pentecôte. Il dira, homme d'Israël, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Rendu témoignage par des miracles, des prodiges et des signes dont vous êtes, eh bien les témoins, vous pouvez en parler, que vous avez vu des miracles, des prodiges, et que Dieu s'est révélé aussi par des signes. Alors ceci dit, nous allons pouvoir rentrer dans notre réflexion, c'est une étude, comme on a l'habitude souvent d'en faire. J'aimerais donner une première approche, une première définition, il y en a bien d'autres, mais c'est simplement pour cadrer un peu notre sujet. Intervention surnaturelle dans le monde de la nature, pour faire simple. Nous connaissons bien notre environnement, enfin autant qu'on puisse le comprendre et le connaître, mais ça pourrait s'expliquer par une intervention surnaturelle dans ce monde naturel dont le témoignage rendu, le fait d'être ou d'exister de ces signes et de ces miracles, et d'attester la présence et la puissance de Dieu. Voilà. On abordera un sujet qui va, eh bien, étayer tout cela, parce qu'il y a des vrais miracles et il y a des faux miracles. Mais quand ils sont vrais, retenons ça, attester la présence et la capacité ou la puissance de Dieu. On pourrait dire, si vous voulez, d'une autre manière, que le miracle, c'est une interférence. C'est une interférence dans le cours normal et ordinaire de la vie que lui-même Dieu a créé, la nature et la vie. Et il va intervenir. Il va bousculer nous. Ça nous interpelle. Mais le monde de Dieu n'est que miracle. Le monde de Dieu n'est fait que du surnaturel. Il n'est fait que de cette dimension qui nous échappe parce que nous sommes des hommes, que nous sommes là enfermés dans un monde fini, alors que Dieu est infini. C'est une intrusion, nous pourrions dire. Et nous, ça nous bouscule. À chaque fois que nous voyons, lorsque Jésus fait des miracles, par exemple dans l'Évangile, les gens se posent des questions, ils se disent, mais qui est celui-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ou alors, quand il y a une intervention angélique, ou une voix qui parle du ciel, les hommes sont pris de frayeur. Ne crains point, c'est moi. Ne crains point, n'aie pas peur. Donc il y a quelque chose qui, eh bien là, nous parle. Quand il est question de cette création, regardez, écoutez le livre des Hébreux, comment les choses nous sont présentées. Il nous est dit par exemple dans Hébreux 11, verset 3, cette parole, mais c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde, la nature, l'univers entier a été formé par la parole de Dieu, le souffle. C'est quelque chose, un souffle qui devient chose, un souffle qui se matérialise, qui va trouver la corporalité en ce qui concerne les hommes et les animaux. Un souffle. En sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles, c'est l'esprit. Alors je ne veux pas être trop compliqué, mais on va aller un petit peu plus dans le détail pour étayer notre compréhension. Et c'est intéressant. Le miracle n'a rien à voir avec la coïncidence ou une coïncidence extraordinaire, soit-elle, ou le hasard. À partir du moment où nous nous sommes rendus compte de l'existence de Dieu, donc que Dieu a fait quelque chose dans notre vie, enfin que nous l'avons laissé faire quelque chose, parce qu'il ne fait pas les choses sans notre autorisation, quelque chose de respectueux, eh bien, nous nous apercevons que nous n'avons plus ce langage. Avant, nous l'avions dû dire, ah, c'est une coïncidence heureuse. Parlons pas de la malheureuse, mais heureuse. Souvent, les gens s'expriment en disant, c'est le hasard. Pour nous, ça n'existe pas. Peut-être, on pourra peut-être trouver un autre langage. C'est providentiel. C'est divinement providentiel. Mais ce sont des mots qui ne sont plus dans notre vocabulaire. N'oublions pas que la nature et la vie même sont sous la dépendance absolue de celui qui les a créés. Et ça, nous le savons, nous le chantons. Très souvent, nous l'exprimons dans notre hymnologie chrétienne. Et nous chantons la grandeur, la puissance de Dieu. Mais on sait très bien que Dieu a sa main sur tout ce qu'il a créé. Même s'il n'apparaît pas, même s'il ne se montre pas, même s'il ne, il reste souvent dans un silence qui quelquefois nous interpelle, Dieu parle-moi. Même si Dieu reste dans le silence, néanmoins il est là. Il remplit tous les cieux et la terre. Et à cela, eh bien, on peut être rassuré. D'ailleurs, c'est les fondations même de notre foi, puisque nous sommes devant la souveraineté de ce Dieu créateur, et d'autant plus qu'aujourd'hui nous sommes sous la souveraineté d'un Dieu qui n'est pas seulement notre créateur, mais qui est notre Dieu sauveur. C'est encore une autre approche. Dieu fait preuve alors de sa libre volonté de faire ou de ne pas faire. Les pharisiens, souvent méchants et hostiles à Jésus, venaient lui dire « Montre-nous un miracle afin que nous croyions en toi ». Aujourd'hui, beaucoup de gens disent « Ah, si je voyais un miracle, eh bien, je croirais ». Vous ne croyez pas que la machine fonctionne à l'envers ? Elle fonctionne à l'envers, excusez-moi l'expression, mais elle fonctionne complètement à l'envers. Et toutes les religions fonctionnent de cette manière, d'une façon ou d'une autre, s'il n'y a pas la révélation de l'esprit. Jésus répondra « Mais si tu crois, tu verras ». Si tu crois d'abord, tu verras, mais n'essaie pas de voir pour croire. Ça, c'était le problème de Thomas, vous comprenez? Pas le mien, mais parce que j'ai un petit Thomas, mais hein, de celui de la Bible, naturellement. Alors, Dieu fait preuve de cette libre volonté, donc de son entière liberté d'user de son pouvoir pour réaliser ce qu'il veut. Et ça fait partie finalement de ce que Jésus nous enseigne dans cette belle prière que nous connaissons tous, notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Parce qu'au ciel, la volonté de Dieu est parfaite. Et nous, comme il nous l'a appris, nous voulons véritablement que cette volonté totale, complète, sainte, absolue dans le ciel, eh bien, soit réalisée sur la terre. Mais les hommes sont retors. Et les hommes sont incrédules très souvent. Alors, il en a la liberté. La liberté de guérir, par exemple, un malade. Eh bien, je ne comprends pas toujours pourquoi. Je ne sais pas et je n'ai pas les explications. Mais Dieu va le faire pour l'un, c'est vrai. Et puis, c'est mystérieux, mais pourquoi ne le fait-il pas pour l'autre? L'autre va rester peut-être souffrant pour des raisons que je ne sais pas. Mais il a la liberté de le faire. Mais de toute manière, il y a quelque chose qui va dominer tout cela. C'est qu'il faut y mettre le mot, il faut lui mettre le mot amour, parce que Dieu aime. Et s'il m'aime, naturellement, il peut me guérir si j'ai la foi pour être guéri. Mais peut-être va-t-il continuer peut-être à me laisser dans un état de précarité de santé, mais je ne dois pas douter qu'il m'aime quand même, parce qu'il a un but dans tout cela. Ben c'est Romains chapitre 8, hein, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses plans, tout simplement. Dans notre monde physique, le miracle est quelque chose, je qualifierais par ces mots, surprenant, étonnant. Voilà. Mais si Dieu est vraiment Dieu, ce que je crois profondément et ce que vous croyez, je n'en doute pas, c'est lui qui contrôle les lois qu'il a créées, qu'il a établies dans et sur la nature. Moi, je fais partie de la nature. Hein. Je suis pas encore au ciel. Hein. Et je suis enfermé dans ce grand, dans cet univers naturel. Et on s'aperçoit que parce qu'il est vraiment Dieu, moi je vais l'affirmer de cette manière, ben il a le contrôle sur les lois. Les lois, il peut les modifier à sa guise, et personne ne lui dira rien. Dieu n'est pas un hors-la-loi, au sens, il est dans la loi qu'il a créée. Mais les lois naturelles de fonctionnement, vous comprenez, hein, c'est pas une loi avec une législation comme nous nous en sommes donnés, bien qu'il y ait des lois morales et des lois spirituelles dans le ciel. Alors, il serait même étonnant, et je voudrais ouvrir une petite fenêtre là, étonnant, de ne pas y voir le miracle permanent, car sans même nous en apercevoir, nous vivons dans un monde où tout est miracle. si vous vous observez les uns les autres, enfin pas les uns les autres, mais vous-même d'abord, eh bien, quand on est ébahi, on est ébahi de voir le fonctionnement quand tout marche bien, quand on est en bonne santé, quand on considère ce que nous pouvons appeler beauté. Je ne sais pas, moi, quelle autre caractéristique qui peuvent l'agilité, la jeunesse, tout ce que vous voudrez. On se dit, mais c'est formidable, c'est formidable. Dieu a fait des choses belles, que ce soit le monde des hommes ou le monde des animaux, le monde végétal et tout cela. Et on se dit, mais ça fonctionne, c'est extraordinaire. C'est pourquoi Paul dira, en parlant des hommes incrédules, il dira, mais ils sont inexcusables parce que la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu se voit comme à l'œil nu. Voilà, qu'on les considère dans ces jours-là. La divinité se voit comme à l'œil nu. Et il y a David qui dira dans le psaume, peu importe, je me souviens plus, 139, il dira, mais je te bénis Seigneur, je te loue Seigneur de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alors, allez-y, hein, vous pouvez y aller. Hein. Seigneur, qu'est-ce que je suis beau! Magnifique, c'est extraordinaire, mais c'est pas seulement une beauté physique, il y a là aussi l'aspect moral, puis il y a l'aspect de ce fonctionnement qui nous donne de vivre, de nous endormir et de nous réveiller, de pouvoir faire, de nous activer, toutes sortes de choses. Oui, mon âme le reconnaît bien. Alors c'est ça, et je dis bien que dans le monde dans lequel on est, on ne devrait pas être étonné du miracle, puisque le miracle il est partout. Il est autour de nous. C'est un miracle si vous êtes venus ce matin. C'est le jour de la fête des mères, vous auriez pu rester chez vous, hein, mesdames, mesdames. Mais je vois que vous êtes venus nombreux avec vos petits-enfants. C'est formidable. Hein? Eh oui. Alors, il est partout ce miracle, il est permanent, parce que nous ne nous en apercevons pas par la fréquence. Et je dis la fréquence. La présence complète en nous, autour de nous et même partout. La négation du miracle provient en deux questions, ouvre tout simplement, provient en grande partie, et Jésus le dénoncera, de l'incrédulité et de l'athéisme. Ce qui revient au même, en quelque sorte. Dans Marc, au chapitre 5, quand Jésus se trouvait à Nazareth, et que là, il était pressé par ses compatriotes, qui voulaient le précipiter, parce que ce que Jésus leur avait dit, ça ne leur avait pas plu du tout, hein, ils voulaient le faire mourir. Et à un moment donné, Marc nous dit ceci, que Jésus ne put faire à Nazareth dans son propre pays aucun miracle, et il est ajouté, à cause de leur incrédulité. L'incrédulité, ça ferme la porte à tout. C'est pour ça que peut-être sommes-nous dans une société et un monde occidental où aujourd'hui on ne croit plus à rien. On ne croit plus en grand-chose en tous les cas. Où ce que l'on peut croire, eh bien, ça provient de l'intelligence et de ce fonctionnement humain qui rejette Dieu. Ça peut être ça. À l'inverse, la foi en un Dieu vivant ouvre des possibilités infinies. C'est ce que tend à nous annoncer le message de l'évangile que nous entendons, qui suscite dans nos cœurs la foi, la confiance, des assurances, des certitudes, lesquelles s'appuient sur ce que Dieu dit, non pas seulement sur que une vague croyance de l'existence de Dieu, mais sur ce qu'il dit. C'est à partir de ce que Dieu dit que je crois et qu'à ce moment-là, je commence à ouvrir ou entre-ouvrir la porte des possibilités ou des capacités infinies de Dieu qui vont être en ma faveur. D'ailleurs, c'est bien pour ça que lorsque l'Église se réunit, il y a toujours un temps particulier qui est non seulement de chanter, de louer le Seigneur, de le prier, et puis d'autres activités que nous pouvons avoir, mais de donner la place à la Bible, à la prédication. La prédication est une folie pour ceux qui ne croient pas, mais par contre, c'est autre chose pour ceux qui véritablement, eh bien, sont disciples de Jésus-Christ. Parce que Dieu est fidèle à ce qu'il promet. Et si nous sommes véritablement attentifs à ce qu'il nous est dit, aux toutes les milliers de promesses qu'il y a dans la Bible, alors à ce moment-là, il y en aura un moment ou un autre éclairé par le Saint-Esprit, parce que nous ne sommes pas des légalistes et des gens avec des œillères ou des fondamentalistes qui prennent la parole de Dieu comme ça et qui, voilà, s'arrêtent et bloquent. Mais notre souci, c'est de dire, eh bien Seigneur, enseigne-moi ta parole et éclaire-moi par ton esprit. Alors là, ça change tout, je peux vous dire. C'est ce qui fera la grande différence, hein, de toute manière. Alors ce qu'il promet, il le fait. Et Jésus nous laisse cette belle parole dans Marc au chapitre 1er quand il dira ces mots. Tout ce que vous demanderez en priant, moi j'y ajoute par la foi parce que bon, c'est l'essentiel. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu Et vous le verrez s'accomplir, nous sommes déjà sur le chemin du miracle. Vous le verrez s'accomplir, sans douter, sans crainte, sans avoir peur, mais croyez et tenez-vous ferme à ce que Dieu vous a promis, alors à ce moment-là, mais ça viendra, ça se réalisera d'une manière ou d'une autre. Parce que Dieu, nous l'avons dit, eh bien Dieu est un Dieu fidèle. L'exaucement de la prière qui croit et qui attend. Parce que c'est ça la prière, c'est pas on ne récite pas, on ne murmure pas là les sempiternels mots ou faire des répétitions, mais c'est quand même cette prière qui croit et qui s'attend à recevoir. C'est ce que nous avons cité dans le verset précédent. À recevoir. Je crois parce que j'ai demandé, je vais recevoir. Et cela, eh bien, ça bouscule l'ordre ordinaire de ma vie. On a pris le cas de la maladie, on a pris le cas peut-être d'une attente ou d'une confirmation, d'une direction ou d'une orientation que nous avons à une décision à prendre dans notre existence. On a prié. Seigneur, je te remets maintenant ma préoccupation, mon souci, qui ne doit pas être un souci destructeur, mais un souci qui doit nous amener à espérer. Alors à ce moment-là, eh bien, puisque j'ai déposé le fardeau devant Dieu, eh bien, ça va bousculer l'ordre ordinaire, ça va bousculer ma logique, mes raisonnements, tout ce que je crains, tout ce que je peux appréhender. Alors c'est Dieu qui va répondre. Et il le fait d'une manière admirable, parce que si nous sommes là ce matin, c'est que nous avons vécu ce genre d'expérience. Et qui a marqué profondément notre vie. Et quand on met sa confiance en Dieu, et qu'on dit, Seigneur, non pas moi ce que je veux, mais toi ce que tu veux, mais le Seigneur ne nous a jamais laissé tomber. Il a toujours été avec nous, et avec le temps, même s'il y a des combats et des luttes dans un départ d'une situation, ou qu'il y a une contestation peut-être dans les prémices de la guérison, mais vous verrez, et nous voyons après, que ce que Dieu nous donne, parce que c'est lui qui nous l'a donné, eh bien, c'est quelque chose de formidable et de merveilleux, qui marquera notre existence et notre vie. Autrement, on ne serait pas là pour en parler ce matin. Le désordre retourne à l'ordre à ce moment-là. Je parle toujours de la guérison ou des problèmes que nous pouvons avoir en tant qu'homme. Le désordre va se remettre dans l'ordre. La santé triomphe de la maladie. L'équilibre prend l'ascendant sur l'anarchie. La justice va renverser l'injustice que nous vivons. La méchanceté auquel nous sommes en but de certains, eh bien, va être transformé dans un autre état et peut-être faire de nos ennemis des amis. C'est le miracle de Dieu. C'est le sermon sur la montagne. C'est les béatitudes, tout ça. Il y a trois aspects du miracle que j'aimerais, comme nous l'avons lu dans le livre des Actes, trois aspects de ce monde qui nous frappent. Il y a le miracle, il y a le prodige et il y a les signes. Le miracle vient du grec dynamis, qui veut dire puissance. Quelque chose qui, véritablement, eh bien là, va se révéler pour nous bousculer. Puissance. Le prodige signifie un acte d'étonnement stupéfiant, qui défie la raison, qui défie nos calculs, notre logique. Je dirais que c'est plus qu'un étonnement, c'est un grand étonnement qui interdit toute réaction, la stupeur. Dans un premier temps, naturellement, qui, quelque part, provoque l'engourdissement. Je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi penser. Parmi les prodiges, bah écoutez, vous avez la traversée de la mer Rouge. Vous avez l'eau changée en vin, c'est un prodige. La résurrection de Lazare. Vous en avez d'autres. La multiplication des pains, ça me vient comme ça, tout simplement. Mais ça, c'est le prodige. Quel est celui-ci qui fait toutes ces choses ? Certains ont dit, c'est un bonimenteur en parlant de Jésus. D'autres diront, c'est le Messie. C'est le Fils de Dieu. Vous voyez, les réactions sont tout à fait différentes. Et puis, il y a les signes qui, là, ont un sens tout à fait particulier, qui ont pour but d'interpeller, écoutez, d'interpeller et de diriger l'attention sur soit la présence de Dieu ou sa capacité de nous révéler le monde spirituel existence supérieure. Ah, ça, nous sommes vraiment les pieds sur terre. Et il y a des hommes comme ça dans la Bible qui ont été, complètement bouleversés alors qu'ils pensaient pas en Dieu, ils pensaient à rien, enfin pas en grand chose de ce monde-là. Et Dieu s'est révélé. Nebuchadnezzar, par exemple, le roi de Babylone. Il est resté, il était roi. Il avait des sages pour lui expliquer, mais personne n'a pu. Mais sauf Daniel. Et ça, c'est quelque chose. Quand il est question de signes, c'est du miraculeux, c'est du prodigieux, mais là, normalement, il y a un message derrière qui te dit, mais wow, qu'est-ce que je suis ? Je suis rien du tout devant ça. Et ça nous confond, on est complètement bouleversé. Trois aspects des choses. J'aimerais en deux mots et brièvement dire les temps forts de l'histoire du miracle dans la Bible. Alors, il y en a plein. Hein, vous avez le temps, là ? Je vous donne jusqu'à jeudi, hein, sans manger ni boire. D'accord, ça vous va ? Et sans dormir. Oui, parce que c'est que ça. La Bible, c'est le livre du miracle. Hein ? Et on n'en fait pas un livre de superstition, on n'en fait pas un livre... Hein ? Le livre de la Genèse, c'est le miracle de la création. Alors là, les hommes, à travers toutes les générations et les temps, lassés de donner une explication à la Bible, se sont dit, on va se créer nous-mêmes un petit peu notre explication. Alors ils sont sortis de la dimension de l'esprit, pour revenir aux choses qui sont à leur portée, c'est-à-dire le monde matériel, le monde physique. Et ils se sont dit, puisque Dieu n'existe pas, parce que c'est pas possible qu'il existe, et on l'a jamais vu. Alors ils ont bâti tout un monde, le monde de l'évolutionnisme. Bien que je voudrais quand même dire une chose, il y a des choses dans cette approche, de cette dimension, qui, ce sont des réalités quand même. Ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas et que Dieu n'a pas créé. Mais il y a un lien qui ne se fait pas. Ils voient, ils constatent, ils analysent, ils mesurent, archéologues et tout ce que vous voudrez les uns et les autres. Mais ils n'ont pas fait le joint qu'il y ait une relation parce que la Bible ne contredit pas la science et la science ne contredit pas la Bible. C'est qu'ils sont superposés et ils se sont pas réunis. Ils n'arrivent pas, c'est l'esprit humain. Et puis alors, cette grande dimension incompréhensible qui est Dieu, hein. L'incompréhensible de Dieu, c'est le monde de la matière et c'est le monde de l'esprit. C'est pour ça que ça ne rentre pas ensemble. Ils sont superposés. Et il y a des compréhensions qui peuvent dire, oui, mais ça existait. Les dinosaures. On en voit encore des dinosaures. Hein? Dans les dessins animés et tout ça. Voilà. Bon, vous avez la preuve. Mais bon, il y a des choses qui corroborent, hein, dans les recherches des hommes. Enfin, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que là, on va... La Genèse. Il y a eu aussi un temps fort dans l'histoire, parce que je ne remarque que cela, hein, le temps de Moïse et de Josué. Moïse, l'homme du miracle, le grand législateur et prince d'Israël, Dieu lui dit, tu vois, maintenant moi je t'ai choisi pour que tu fasses sortir mon peuple à bras étendus. Qu'est-ce que ça veut dire? La main du miracle. Moïse, extraordinaire, dans le palais d'Hérode, pendant 40 ans dans le désert, en vivant avec les Israélites à la montagne d'Horeb, d'une façon ou d'une autre, le miracle est présent. Hé ! Son successeur Josué va faire la même chose. Quand il s'agira de la conquête du pays de Canaan, les murs de Jéricho, et puis bien d'autres choses comme ça qui ne me viennent pas en mémoire, mais ce n'est que du miracle dans ces temps forts. Et puis encore quelques temps après, quelques siècles après, il est arrivé deux hommes. L'un s'appelait Élie, l'autre Élisée. Et il semblerait que le ciel frappe la terre du miracle avec ces hommes-là. Ah ouais, Élie, le mont Carmel, Élisée et Élie lui-même ressuscitant des morts, faisant des choses formidables. La terre est frappée du miracle de Dieu, parce que le peuple d'Israël a besoin de voir, il a besoin de signes. C'est un peuple incrédule, c'est un peuple qui a du mal à suivre Dieu, et Dieu lui fait grâce. Comme les Israélites quand ils sont sortis d'Égypte. Ils ont du mal à tout cela. C'est terrible. Et puis, pour aller vite, il y a cette période de l'exil à Babylone, dont le représentant sera Daniel. Daniel va vivre des choses extraordinaires, mais d'un miracle un peu particulier, pour lui-même, dans la fosse aux lions, par exemple, dans d'autres situations. Mais le miracle sera surtout un miracle silencieux, mais un miracle qui va s'accomplir. C'était quand même de faire sortir, après 70 années de déportation à Babylone, le peuple pour revenir à Jérusalem et en Palestine, et cela avec le consentement des rois qui étaient ses ennemis et qui vont donner l'autorisation, Nebuchadnezzar. Il y aura également Cyrus. Il y aura Darius. C'est l'histoire. Vous intéressez à l'histoire? Oui, bon, on verra ça une autre fois. Mais toujours est-il que c'est authentifié tout ça, hein, on ne l'a pas inventé. David et ses compagnons, il y aura Jésus et l'Évangile. Alors là, il n'y a pas une page parmi les quatre livres de l'Évangile où il n'y a pas de miracle. Miracle de guérison, miracle, prodige, signe. Là aussi, hein, c'est le ciel qui s'ouvre, hein, naturellement. La première Pentecôte qui va ouvrir l'ère chrétienne, les chrétiennes, c'est celle que dans laquelle on est aujourd'hui, et qui va envoyer sur les routes de l'Empire romain, eh bien, des hommes que l'on appelle les disciples de Jésus-Christ, des apôtres, des évangélistes, des docteurs, etc., docteurs en théologie, en nature, enfin, en docte, vous comprenez ce que je veux dire, qui enseigneront le monde entier, parce que ça nous est arrivé jusqu'à nous, un miracle, avec des signes et des prodiges, avec des choses qui marqueront. Mais c'est Marc qui le dit, parce que je crois qu'il faut le dire, au moment où ils sont partis en mission, tous ces disciples, écoutez, la conclusion du livre de Marc, « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, il n'est plus là, mais il est avec nous, et il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent, les disciples s'en allèrent prêcher partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Vous avez bien remarqué une chose, il fallait qu'ils parlent, qu'ils annoncent l'Évangile, et ensuite il y avait confirmation de ce qui était dit, et non pas le contraire. L'occultisme. Attention, la magie ne s'appuie pas sur la parole de Dieu. C'est un autre monde, un monde dangereux. C'est une marée noire. Si nous restons sur les paroles de l'Évangile, nous ne nous tromperons pas. Ils annonçaient l'Évangile et Dieu confirmait. Ce n'était pas les hommes qui confirmaient, c'était Dieu qui confirmait la parole qu'il leur avait confiée pour le salut des âmes, pour guérir les malades, pour enlever peut-être les détresses et les angoisses des hommes, tout simplement. Toutes ces promesses de l'ère de la grâce. Aujourd'hui encore, il y a des temps de réveil dans notre monde. On s'en aperçoit pas trop dans notre monde occidental et en particulier dans notre France, déchristianisée. Mais aujourd'hui, il y a de par le monde des choses extraordinaires qui se font. Et il y a un pays qu'on n'aurait peut-être pas pu présager qu'il en serait, c'est la Chine. Ce sont des millions et des millions et des millions de personnes qui se convertissent en ce moment en Chine, avec des miracles, des prodiges. Nous avons un missionnaire, enfin, que vous connaissez, puisqu'il est de la région Bretagne. Ils ont ouvert toute une équipe, plus de 200 orphelinats pour des enfants aux Indes. Et quand il revient de temps en temps dans nos pastorales Bretagne, il nous raconte des choses extraordinaires. Des baptêmes du Saint-Esprit, des guérisons, des transformations de vie, des choses formidable, alors qu'il y a une opposition du pouvoir indien sur les églises chrétiennes, avec quelquefois des mises à mort de pasteurs, il y a des choses quelquefois qui se passent extraordinaires, comme dans le livre des Actes. D'ailleurs, notre frère nous dit souvent, c'est le livre des Actes d'aujourd'hui. Ça existe. Ah, c'est sûr que quand on raconte ça à l'église chrétienne en France, on se dit, ben nous on n'en voit pas beaucoup des miracles. Mais c'est pas parce qu'on n'en voit pas que Dieu n'existe pas. Et ce n'est pas parce qu'on n'en voit pas que Dieu n'est pas capable de faire des miracles dans notre vie, parce qu'il en fait tous les jours. Maintenant, faut avoir les yeux du cœur pour pouvoir, eh bien, le comprendre. Tout simplement. J'aimerais dire quelque chose et cadrer maintenant le miracle dans cet aspect don et fruit de l'esprit. Parce que les dons de l'esprit, ce sont des miracles. Et les fruits et les dons, ce sont des miracles. Nous sommes dans une église charismatique. Je sais que tout est dans l'intelligence spirituelle de pouvoir comprendre les choses et pouvoir vivre ces choses dans la sagesse et l'intelligence de Dieu. Alors les fruits, les dons du Saint-Esprit ont été donnés pour l'évangélisation du monde, non pas pour éblouir, pour dire nous sommes les meilleurs, les plus forts, c'est notre Église qui ceci et cela. Écoutez, quand on parle comme ça, on va pas les avoir longtemps, hein. Mais toujours est-il, c'est pour dire au monde, eh bien voilà, nous annonçons l'Évangile, mais Dieu va vous donner la preuve qu'il est encore celui qui guérit les cœurs brisés, qui est capable encore de soulager les opprimés, de délivrer ceux qui sont emprisonnés, de faire des choses formidables et Dieu, d'ouvrir les yeux des aveugles. Et dans ce sens, eh bien, nous nous apercevons que Jésus reste le modèle et c'est lui qui fait tout. Et Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis la lumière du monde » Et quand vous regardez dans le texte, quand il dira « Je suis la lumière du monde », qu'est-ce qu'il va faire? Aussitôt après, il va guérir l'aveugle-né. Je le dis, je le fais. Nous, nous sommes des gens qui disons mais qui ne faisons pas. Nous n'avons pas toujours la capacité. Quand Jésus dit dans l'évangile « Je suis la résurrection et la vie », immédiatement il ressuscite Lazare. Immédiatement. Quand Jésus parlera quand il fera le discours sur le pain de vie, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il multiplie les pains. c'est simultané. Et puis il y en a bien d'autres comme ça. Je voudrais simplement maintenant dire une chose, puisque nous le faisons par étapes. Je voudrais vous parler du temps de l'absence des miracles. C'est complet, hein, ce matin. Ah ouais, j'ai travaillé pour vous. C'est miraculeux. Temps d'absence du miracle. Si je cite des hommes comme Abraham, Abraham n'a jamais fait de miracle. Je vous cite le roi David. Le roi David n'a jamais fait de miracle. Il a bénéficié des miracles de Dieu. Quand je pense à Jean-Baptiste qui a eu un ministère extraordinaire, qui rassemblait des milliers et des milliers de personnes sur les bords du Jourdain pour les baptiser, du baptême de repentance pour le pardon des péchés. Il ne nous est pas dit que Jean-Baptiste a fait des miracles, non. Il y en a d'autres. Il y a aujourd'hui des gens, des églises, des pasteurs qui croient aux miracles, mais qui ne sont pas des hommes, qui finalement, avec des charismes miraculeux, dont l'esprit, hein. Mais c'est pas pour ça qu'ils ne sont pas chrétiens. Moi, je ne peux pas dire que j'ai un charisme miraculeux. On me prendrait pour un guérisseur, imaginez-vous, hein. Ah, ça, je ne voudrais pas, hein. Non? Mais néanmoins, je crois au miracle. Et je crois que quand on prie pour les malades, quand on impose les mains aux malades, ou qu'on va dans une situation ou une autre, je crois que c'est Jésus, quand on invoque son nom, qui est capable de faire des miracles. Et on en a vu des dizaines. Moi, j'en ai vu des dizaines et des dizaines dans mon ministère. Mais que la gloire ne me revienne pas à moi, ou à l'église à laquelle j'appartiens, mais qu'elle revienne à Jésus. Ça, c'est important. C'est comme ça que ça fonctionnera. Mais est-ce qu'on a besoin de voir des miracles tous les jours? Des aveugles guéris, des paralytiques, etc. Parce que ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas uniquement de notre foi, ça dépend de celui qui est malade et qui a besoin. Parce que la foi, elle fonctionne dans ce domaine. Si tu as la foi, si tu crois, tu verras. Hein. Si tu ne crois pas, tu verras rien. Alors, l'absence du miracle. Et puis, il faut bien dire que après ces temps fructueux, bénis de miracles dans la Bible, énoncés dans la Bible ou présentés dans la Bible, il y a également une longue période en Israël sans miracle. C'était le désert. La période qui va du retour de l'exil jusqu'au dernier prophète qui s'appelle le prophète Malachi, 400 ans sans miracle, sans rien du tout. Et moi, je voudrais le dire à ceux qui, quelquefois, soupirent, même dans notre église, en disant « mais il n'y a plus de miracle ». Mais, écoutez, c'est vrai, on le constate, ça peut être un sujet d'interrogation, mais ça ne nous empêche pas de vivre notre foi en Dieu, hein. Parce que c'est Dieu qui fait le miracle. Et vous savez qu'à travers les miracles authentiques, il y en a beaucoup qui ont perdu la tête. Il y a des pasteurs qui ont perdu la tête. Et ils sont devenus des petits dieux. Ouais. Et quelquefois, il y a des églises, parce que quand il y a miracle authentique, je peux vous dire il y en a un qui s'appelle le diable. Il va essayer de produire des miracles, des faux miracles au milieu de nous. Pour détruire l'œuvre de Dieu, pour apporter la contradiction, la concurrence, la contrefaçon. Alors, Dieu sait tout. Moi, je pourrais pas vous expliquer pourquoi ceci et cela. Mais je vous ai dit souvent que si dans nos réunions d'évangélisation, la salle était pleine et que nous ayons la possibilité d'annoncer l'évangile comme nous l'annonçons fidèlement le vendredi soir ou le dimanche, régulièrement, comme nous le fait, parce que nous voulons que les portes restent ouvertes, vous comprenez? Si une porte est fermée, personne ne rentrera. Si elle est ouverte, tout le monde peut pousser la porte pour rentrer et écouter la parole de Dieu. Donc, on s'en tient à ça. Mais une chose qui est certaine, c'est que je sais que si j'ai un auditoire, je l'ai vu, je l'ai confirmé quelquefois dans des missions que j'ai faites, quand il y a un apport de nouvelles personnes qui viennent, vous prêchez le plus simple des évangiles, les choses les plus simples, eh bien là, il y a un courant de l'esprit qui passe. Et nous l'avons vu, nous prions pour les malades, et il y a une œuvre du Saint-Esprit qui se fait. Nous sommes dans un monde malade, comprenez? Les gens ont peur, ils ont peur de Dieu, ils ont peur de Jésus-Christ, ils ont surtout peur des sectes. Rendons un bon témoignage de la crédibilité de notre confession de foi. Autrement, il y aura de moins en moins de personnes. si nous sommes un petit peu des exaltés, des éthérés, des farfelus, je peux vous dire que ça ne va pas engager. Dans les temps dans lesquels on est, avec les médias et tout cela, ça n'engagera pas les gens à venir et s'approcher de Jésus. La meilleure approche que nous puissions avoir, comme Jésus l'a fait et en a fait la démonstration, quand ce jeune homme riche est venu lui dire « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus ne lui a pas répondu tout de suite, dans la clé qu'il avait besoin, pour lui donner la clé qu'il avait besoin, il nous a dit que Jésus l'a regardé, il l'a aimé, et ensuite il lui a dit. Nous nous faisons le contraire, nous commençons à dire des choses, sans savoir qui est la personne. Commençons d'abord à regarder, à aimer, et ensuite de donner le message. Et vous verrez, ça change tout. J'ouvre une nouvelle page brièvement, c'est les faux miracles. Parce que si je parle des vrais, il faut parler des faux, pour rester dans une prédication équilibrée. Une autre puissance surnaturelle, spirituelle, est aussi à l'œuvre. Il faut le savoir en tant que chrétien. Il y a une concurrence. Il y a une contrefaçon, manifestation surnaturelle d'origine satanique. Et là, la Bible nous en parle pour nous avertir, pour nous dire « Attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. » Parce que la constatation que nous pouvons faire dans notre monde aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre. Il y a l'incrédulité résolue, ou il y a la crédulité aussi de certains, que nous trouvons peut-être dans les rangs des chrétiens. On croit tout, sans vérifier ce que c'est, la nature et l'origine des choses. Mais la foi se situe au milieu. Et dans cette croyance, dans cette crédulité, il y a toutes les croyances religieuses. Voilà. Alors, il y en a un qui essaie de nous confondre dans tout cela. Et je pense que c'est quand même important de garder l'équilibre et de savoir, n'appelons pas tout ce qui est diabolique, tout ce qui est diabolique, parce qu'il y a des choses qui sont quelquefois, eh bien, c'est pas diabolique. Et n'appelons pas divin non plus ce que nous croyons être divin. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne. La Bible, donc, nous met en garde sérieusement et nous livre un antipoison, un antidote. C'est le discernement que nous donne l'Écriture sainte. Ça dépend ce que nous faisons de l'Écriture. Si véritablement elle a une place dans notre vie pour nous enseigner, nous éduquer, eh bien là, nous sommes parés. Oui, oui. Nous allons être garantis de toutes les traquenards et tous les pièges. Alors la parole de Dieu nous enseigne de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Je prends par exemple les magiciens d'Égypte. Quand Moïse s'est présenté devant Pharaon, alors Moïse est arrivé le dernier, lui. Parce qu'il y avait déjà dans ce palais, ce haut lieu de la mythologie païenne, donc égyptienne, eh bien, le pharaon était entouré avec des occultismes, des spirites, avec des magiciens, des mages et toute cette catégorie de morts, on pourrait dire. Vous savez ce qu'ils ont fait, les magiciens, quand Moïse a commencé à faire le miracle pour convaincre Pharaon? Ben, ils ont fait la même chose, jusqu'à un certain point. Il nous est dit que ils ont reproduit jusqu'au la cinquième plaie. Et à un moment donné, Moïse a jeté son bâton, il est devenu un serpent. Et les magiciens ont jeté leur bâton, ils sont devenus des serpents. Mais la différence, c'est là où tout a changé, c'est que le serpent de Moïse a avalé les serpents des magiciens. Terminé. Et après, ils pouvaient plus faire. Ils ont dit à Pharaon, on ne peut plus aller plus loin parce que cet homme, ce Moïse, doit avoir un Dieu qui est, il dépasse tout ce que nous pouvons concevoir. Voilà. Donc il y a Simon le magicien également, qui, par ses actes de magie, que tout le monde prenait pour des actes divins. Il y a Elimas, bar Jésus, vous savez. Il y a les fils de Séva, qui étaient des juifs authentiques, mais qui pratiquaient l'occultisme et tout ça, et qui faisaient ça normalement au nom de Paul, pour le compte de Dieu. Méfiez-vous, hein, notre monde aujourd'hui, il est plein de cultes religieux, hein, où on parle de Jésus, on parle de la Bible, etc., etc., mais ça n'a rien à voir avec la Bible. Hein. C'est simplement, eh bien là, un leurre. Vérifié. Il faut le dire, pour celui qui en aurait besoin ce matin de l'entendre. Jésus avertit, quand il dit « viendra des faux prophètes ». Il nous est dit également qu'il y aura des gens qui feront des miracles dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 24. Ils viendront jusqu'à séduire, ils feront des miracles, des prodiges, ils viendront jusqu'à séduire les élus. Imaginez-vous que ça nous concerne. Hein. Ne soyons pas crédules. Regardons et observons, réfléchissons. Certains faits miraculeux ont un objet très précis. Les 10 plaies, par exemple, je reviens à l'Égypte, démontrent la supériorité divine, contrastant avec l'adoration superstitieuse des faux dieux d'Égypte. Parce que quand vous regardez les 10 plaies, à chaque fois que Dieu condamne par une plaie, finalement, eh bien, par un signe, il y a la condamnation du faux dieu qui est derrière. Vous savez que la mythologie égyptienne, elle se manifestait, elle se caractérisait par l'adoration des animaux, enfin des symboles d'animaux, etc., etc. Et derrière, c'était des invocations magiques et diaboliques. Donc, la confusion des idoles. Quand on voit, par exemple, l'histoire des cailles, l'histoire de la manne dans le désert, et ça c'est dans le bon sens, Dieu voulait prouver qu'il était capable de prendre soin de son peuple, même dans un désert affreux, la traversée de la mer Rouge par exemple, c'était d'attester à ce peuple qui était le témoin de ce prodige, de le délivrer toujours, de le délivrer encore des périls mortels, et d'éveiller, d'aider à croire l'impossible. Et Jésus va le stigmatiser d'une manière particulière. « Si tu crois, dira-t-il à Marthe, eh bien tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je dirais même, tu verras la gloire de Dieu dans le miracle et dans les choses extraordinaires. Mais si tu crois. » Tout ça, c'était le but, hein. Une dernière observation avant de terminer. Les miracles, je parle des divins, ceux qui viennent de Dieu, les plus éclatants ne peuvent rien pour celui, c'est-à-dire quiconque, refuse d'ouvrir son cœur. Vous pouvez bien avoir toutes sortes de manifestations divines, ici ou là, si la personne est incrédule, si elle a fermé son cœur, si elle refuse ou si elle se blinde dans des raisonnements, dans son entendement qui deviennent des forteresses finalement d'opposition, alors à ce moment-là Dieu ne pourra rien faire. C'est ce qui se passait pour les Nazaréens, quand Jésus leur a dit ce qu'il avait à leur dire et que là il a pu faire aucun miracle au milieu d'eux. Nous sommes dans une société qui va beaucoup plus vers l'incrédulité que par une tendance à la foi, hein, naturellement. C'est ce qui a amené Pharaon, finalement, à s'endurcir. Il nous est dit que dans les premières plaies qui sont tombées sur l'Égypte, Pharaon endurcit son cœur. Et à un moment donné, il nous est dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. N'endurcis pas ton cœur. Ouais. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu te montre, quand Dieu est en train de t'interpeller d'une manière... N'endurcissez pas votre cœur. Ça, c'est l'Écriture, le livre des Hébreux qui nous dit ça. C'est quelque chose. Les pharisiens, ah oui, les pharisiens, qui étaient pourtant des hommes de la synagogue, des hommes du temple, ils voulaient rien savoir, ils n'avaient rien à faire. Alors, je termine une conclusion, tout simplement. La grande question qui va clore notre réflexion, comment reconnaître ce qui vient de Dieu ou ce qui vient de l'adversaire, puisque ça a été posé? Je reviens toujours à ce que nous avons dit, la pierre de touche infaillible. Oui, la pierre de touche où il n'y a pas de contestation, c'est la parole de Dieu. Écoutez, je lis ce dernier texte. C'est dans Deutéronome, c'est l'Ancien Testament, mais quand même, il a sa raison d'être. Je lis ceci. S'il s'élève au milieu de toi un prophète, ou un magicien, un bricoleur en tout genre, comme ça, ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe et du prodige dont tu entends parler, disant « Allons après d'autres dieux ». Ouais, il y a des choses qui peuvent être réelles, mais si on nous dit « Allons après d'autres dieux », des dieux que tu ne connais point, et servez-les, ou servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète et de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve. Pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements. Vous obéirez à sa voix. Vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la main de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? La priorité à l'état duel revient à Dieu. Tout ce que notre attachement est pour le Seigneur, c'est lui qui est souverain sur toute chose, parce qu'il y a des chemins d'égarement, il y a toutes sortes de choses. Et quand on sait la propension de notre monde, de tous les temps, et particulièrement aujourd'hui, cette démonstration, ces friandises que l'on appelle voir du miracle, avoir des sensations et tout cela, du spectaculaire, du scénique et tout ce que vous voudrez, on comprend qu'il y en a beaucoup qui tombent dans le panneau. Je veux voir un miracle. Ah, vous voulez en voir? Ben, vérifiez donc de quelle origine est le miracle. Parce que vous pouvez en voir 36 chandelles après. Hein. Tout miracle qui vise à la gloire de l'homme, à ses avantages, à son profit, ne peut venir de Dieu. Et c'est vrai même dans nos églises évangéliques. Un pasteur, un évangéliste qui se glorifie de dire « Moi je fais des miracles, je ceci, je cela, Dieu se sert de moi et tout ça », il est en danger. Et l'église est en danger aussi, parce que ça va détourner finalement de celui qui est, qui doit être adoré et adoré. C'est Jésus. Christ n'a jamais fait des miracles d'exhibition pour lui-même. Tout pour la gloire de Dieu. Deuxième chose, tout vrai miracle manifeste la grandeur, la sainteté et la gloire de Dieu. Uniquement, absolument. Tout miracle spectacle, absurde, parce que quelquefois on a entendu des choses assez particulières, ou puériles, sont contraires à l'enseignement biblique évangélique. Tout l'extraordinaire qui donne naissance à des croyances, puis à des dévotions, voire des cultes de personnes vivantes ou mortes, ça va vous rappeler des souvenirs, ou à une idolâtrie religieuse, à une piété irraisonnée, passionnelle, mystique, contes et légendes, à toutes sortes d'absurdités, de superstitions, de dogmes, ne procède aucunement de l'Esprit de Dieu. Et ça vous ramène finalement à tout le monde religieux dans lequel on est autour de nous. D'accord? Ouais. Jésus, Jésus seul. Jésus seulement. Jésus l'a dit, à chaque fois qu'il faisait des miracles, ne le dit à personne. Et à chaque fois que les gens entendaient ça, il le disait à tout le monde. Ça ne vous empêche pas de témoigner, hein? D'accord? Et c'est ainsi, et aussi la cause, et à cause de cela que Jésus avertit que le royaume de Dieu sera fermé à tous ceux et celles qui prétendent faire ou avoir fait des miracles, des faux miracles, en son nom. Et un dernier verset, dans Matthieu chapitre 7, et au verset 22-21, ceux qui me disent, écoutez bien, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. C'est parce que ce n'est pas de dire et d'avoir dans la bouche le nom du Seigneur que l'on est véritablement converti et chrétien et rempli du Saint-Esprit. D'accord. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et où trouver la volonté de Dieu? À travers sa parole, la Bible, l'Évangile. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Miracle. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Miracle. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et Jésus va répondre, alors je vous le dis, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Que Dieu nous bénisse ce matin. Moi, je pense que ce petit tour d'horizon sur les miracles, les signes et les prodiges, c'est quelque chose qui est nécessaire. Si véritablement ces choses merveilleuses, admirables, étonnantes, époustouflante, stupéfiante, existe, que la gloire en revienne à Jésus et à Jésus seul. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta bonté et ta fidélité. Merci Seigneur, parce que tout cela, nous ne l'avons pas sorti d'ailleurs que dans la Bible, que dans l'Évangile. Nous avons voulu rester scripturaires. C'est-à-dire, Seigneur, eh bien tout simplement, eh bien dire ce que toi tu as permis qu'il soit écrit devant nos yeux, dans ce livre merveilleux qu'est la Bible, et de nous en tenir, parce que nous savons, Seigneur, que c'est vrai, l'homme a besoin d'extraordinaire. Il a besoin de miraculeux. Il a besoin, en effet, Seigneur, de savoir que le ciel n'est pas désuni ou contraire à la terre, que nous avons des besoins physiques, des besoins moraux, des besoins psychologiques, des besoins spirituels. Et tu y réponds, Seigneur, par des expériences ou des rencontres avec toi qui nous font faire des expériences et qui nous disent « Mais Dieu est vivant, Dieu a entendu ma prière, Dieu exauce les prières, Dieu est un Dieu de délivrance, un Dieu de libération, un Dieu qui pardonne. » Tout ça, ce sont des miracles. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, qu'il n'y ait rien pour moi, mais qu'il y ait tout pour toi, Seigneur, que tout en revienne, parce que dans le ciel, en effet, eh bien, tout sera miracle, splendeur, éclatement de ta gloire et de ton autorité, de ta suprématie divine. Et sur la terre, Seigneur, eh bien, nous pouvons dire, comme dans la parabole de Jésus, nous sommes un peu comme ces femmes qui disaient qu'elles prenaient les miettes sous la table du maître. Seigneur, tu es notre maître, tu es notre sauveur, et nous avons des miettes sur cette terre. Mais quelles miettes? Lorsque tu guéris, lorsque tu sauves, lorsque tu délivres, lorsque tu ouvres les portes de nos prisons, lorsque tu transformes notre vie, mais ce sont des choses extraordinaires. Et nous te bénissons parce que c'est vraiment le pain des enfants que tu nous as donné. Oui, le pain de ceux qui t'appartiennent. Et tu nous nourris de ta parole, tu nous construis de ta parole. Et nous attendons ton retour, ou dans le ciel. Eh bien, Seigneur, tout cela sera véritablement, eh bien, le caractère même de cette éternité. Louange et gloire à toi. Merci Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.